un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Pourquoi se taire, ne rien dire pendant une minute, tous ensemble et de préférence debout, serait-il le plus bel hommage qu'on puisse rendre aux victimes de terrorisme, au président de la République, à une directrice d'école ou à de grands écrivains ? Remarquez, il y a aussi allumé la tour Eiffel pour donner l'idée d'une lumière dans l'obscurité et d'un espoir. Mais pourquoi le silence serait-il la marque ultime du respect ? En quoi faire taire des enfants serait la façon la plus noble de les sensibiliser à une catastrophe, par exemple ? J'imagine à peu près qu'il y a là-dedans l'idée du recueillement, que pendant des minutes de silence, même si les enfants et les adultes ne parlent pas, ils peuvent penser. Peut-être aussi chacun peut faire une prière, mais dans sa religion. Je me dis aussi que certains doivent y trouver une certaine beauté au silence, une façon de faire taire l'agitation et le bruit du monde. Pendant une minute, on ne dit rien, mais au moins, on ne dit pas n'importe quoi. Peut-être enfin qu'on n'a rien trouvé à dire d'intéressant, de juste ou qui fasse du bien. Ce silence serait-il un bel aveu d'impuissance, comme quand on dit « il n'y a pas de mots ». Tout de suite dans les pieds sur terre, rassurez-vous, il n'y aura pas de minute de silence, aucun risque, mais trois belles histoires sur le silence, avec plein de mots, et si bien racontées par Élise Andrieux.
Alors, je m'appelle Tony, j'ai commencé à parler quand j'avais 1 an et demi, et j'ai bien fait d'en profiter parce que ça n'allait pas durer longtemps. Je me souviens pas du tout du moment où j'ai arrêté de parler. Mes parents m'ont raconté que c'était vraiment d'un seul coup, du jour au lendemain. À ce moment-là, j'avais à peu près 4 ans. Un soir, je disais bonne nuit à mes parents, comme d'habitude. Et le lendemain, je ne parlais plus. Mes parents se sont posé beaucoup de questions par rapport à ça. Ils ont attendu un moment. Ils se sont dit que ça allait peut-être revenir. Puis les jours sont passés, les semaines sont passées, et je ne parlais toujours pas. Alors, le médecin a diagnostiqué un mutisme sélectif. C'est un trouble anxieux qui atteint généralement les enfants, les jeunes enfants. Donc on avait le nom, il restait à connaître la cause. On a imaginé que ça pouvait venir d'une dispute familiale parce que c'était une période assez tendu entre ma mère et sa sœur. Dans la même période, j'ai eu aussi un cauchemar que j'ai cru réel pendant beaucoup de temps, pendant longtemps. Et j'étais dans mon lit, j'ai été réveillé par une sonnerie. Et là, j'ai vu une silhouette qui, à première vue, m'observait. Et puis le cauchemar s'arrête là. Et j'étais absolument pétrifié. J'ai appelé cette silhouette le monsieur noir. Et pendant longtemps, j'ai cru que mon mutisme pouvait venir de là. Aujourd'hui, je sais que ça ne vient pas de là, que c'était vraiment seulement un cauchemar. Et j'ai raconté cette histoire en thérapie. Je communiquais par écrit. J'ai appris à écrire très tôt, dû au fait que je me suis arrêté de parler à 4 ans. J'ai appris à écrire avant le CP. Et à l'école, on se demandait pourquoi cet enfant ne parlait pas. Et quand j'essayais de répondre à cette question, je voyais que je n'arrivais pas à y répondre parce que je ne savais pas moi-même. C'est comme si deux parties de mon cerveau étaient en conflit. Il y avait cette partie de mon cerveau qui avait une réelle envie de parler et d'être comme tout le monde. Et d'un autre côté, l'autre partie de mon cerveau qui disait « Non, il ne faut pas que tu parles. Les poumons doivent se bloquer pour ne pas envoyer d'air pour produire un son. Les cordes vocales ne doivent produire aucun son. Il ne faut absolument pas que tu parles. » Et avec mes parents, on cherchait toujours la cause. Je poursuivais ma thérapie, mais de ce côté-là, il n'y avait rien qui évoluait vraiment. j'ai eu une scolarité normale, dans une école normale. Malgré mon manque de parole, j'ai toujours eu des copains. Et un jour, ça a changé. Je suis entré au CM1. De nouveaux élèves sont arrivés dans l'école, qui ont commencé à embêter certains élèves, et je faisais partie de ces élèves. Souvent, c'était des moments dans la récréation, ça durait quelques minutes, où voilà, c'était tout un groupe d'enfants qui étaient autour de moi et qui me pointaient du doigt et qui disaient « Ah, le Mongol, ah, le Mongol !» ou qui riaient, ou qui me crachaient dessus, ou qui me tapaient. Et ensuite, ils partaient. Et voilà, je me retrouvais là, tout seul, à avoir mal. Et j'ai passé le CM1, le CM2. Je suis passé au collège. La plupart des camarades que j'avais en primaire avaient changé d'établissement. Donc je ne les voyais plus pour la plupart. Et puis on s'était organisé pour que ça se passe bien malgré tout. Et à la fin de l'année de quatrième, j'ai même eu ma première petite amie. Ce qui était pas vraiment pensable pour moi parce que je ne parlais pas et je n'imaginais pas comment je pouvais avoir une petite amie en ne parlant pas. On était dans le même collège, mais je l'ai réellement rencontré parce que j'avais commencé à écrire un blog pour expliquer à mes camarades ce que je vivais, comment je vivais le silence, qu'est-ce que c'est le mutisme. Et voilà, on a fini par se mettre ensemble, mais ça n'a pas duré longtemps. Comme on dit à l'adolescence, la flamme est vive, mais elle est brève. Et elle a fini par me quitter un mois après, parce que je ne parlais pas. J'avais jamais été aussi en colère contre moi-même, contre cette pathologie qui me gâchait la vie depuis toujours. Et je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas continuer à vivre comme ça, sans parole. Et voilà, je suis destiné à quoi, finalement ? J'ai pas d'avenir professionnel, j'ai pas d'avenir sentimental, j'ai pas d'avenir. Comment je peux vivre comme ça? Et pour me changer les idées, suite à cette rupture, j'ai commencé à me balader en vélo, tout seul. Et lorsque j'ai croisé sur un chemin des randonneurs qui m'ont salué, ils m'ont dit bonjour, je me souviens assez précisément de ce moment-là. Nos regards se sont croisés. Et toute cette rage que j'avais accumulée en moi durant les jours précédents par rapport à ma rupture a fait que j'ai réussi à sortir le mot « bonjour ». À ce moment-là, j'avais 15 ans, donc j'avais commencé à muer. Donc c'était une voix qui était déjà plus ou moins grave. Et ça m'a paru bizarre parce que j'ai entendu cette voix intérieure sortir ce « bonjour », ce petit « bonjour ». Et comme une sensation nouvelle. Et c'est à partir de là que je me suis vraiment dit que j'en étais capable. Et pour moi, en fait, ces randonneurs, ça a été les premières personnes auxquelles j'ai parlé depuis des années. Et ces personnes ne le sauront jamais, et je ne saurai jamais qui c'est. Je ne pourrai jamais leur dire. Oui, c'est le moment qui a marqué le début de la fin de toutes ces années de silence. Et donc je suis passé à une étape suivante, en fait, où là j'allais m'acheter un goûter et je croisais régulièrement la même caissière tous les jours. Et voilà, où je m'entraînais, je me souviens que je m'entraînais dans ma chambre au préalable à dire merci, bonne journée, au revoir. Et puis voilà, quand je passais à la caisse, au début j'étais pas du tout sûr de moi. Quand je passais, elle me rendait la monnaie, je disais merci, au revoir. Et puis je partais vite, parce que j'avais peur qu'elle me rattrape et qu'elle me dise quelque chose que j'avais pas prévu. J'avais cette grande peur de l'imprévu, en fait, quand je faisais ça. Et je m'entraînais comme ça. Et puis, j'ai commencé voilà, à parler à des gens un peu plus en profondeur qu'avec les vendeuses à qui je disais simplement merci, au revoir. Bon, je parlais pas encore très bien. J'avais beaucoup de mal à articuler, j'avais beaucoup de mal à sortir ma voix, je parlais très très doucement, Je bégayais énormément aussi. Mais dans l'ensemble, ça se passait bien. Mes parents, c'était totalement impossible de leur parler. J'arrivais à parler en fait à absolument tout le monde, sauf à mes parents et à mon petit frère. Et un jour, ils sont venus à Lyon pour qu'on aille visiter un salon tous ensemble. Il me semble que c'était le salon de l'apprentissage. Et à un moment, je me suis retrouvé seul à un stand à poser des questions à la personne qui tenait ce stand. Au fil de la discussion, ma mère est arrivée en fait à ce stand. Et d'un coup, j'étais en train de parler en présence de ma mère. Et c'est la première fois que ma mère a entendu ma voix en face à face depuis 15 ans. Elle n'a pas eu vraiment de réaction tout de suite. Dans la voiture, ça a été silencieux. Mais une fois arrivé à la maison, je ne sais plus, quelqu'un a lancé une phrase banale et puis j'ai répondu. Et en fait, c'était parti. Bon, ma mère a essayé d'être discrète, mais je l'ai vu qui avait les larmes aux yeux. En fait, et puis après, elle est partie se cacher un peu pour pleurer, je pense, de joie. Ma mère a marqué la date à laquelle je lui ai parlé pour la première fois, parce qu'on n'avait pas pu marquer la date de quand je m'étais arrêté de parler. Et puis, c'est devenu en fait une des dates importantes. Oui, l'anniversaire du jour où je suis enfin sorti. Où je suis enfin sorti du silence. Et la cause, on ne l'a jamais vraiment connue. On ne la connaît toujours pas aujourd'hui. Et finalement, ça ne me dérange pas trop de ne pas connaître la cause. Pour moi, tout ce qui importe, c'est qu'aujourd'hui, j'ai retrouvé la parole. Pour moi, je parle et je peux tout faire. Tout est possible.
France Culture, les pieds sur terre.
Donc bonjour à tous.
Bonjour.
Donc, je m'appelle Jean-Loïc, je suis enseignant-chercheur ici à Sorbonne Université. Je vais vous présenter une salle qui s'appelle comment ?
La chambre anéchoïque.
Une chambre anéchoïque ou chambre sourde. Voilà, c'est les deux mots qu'on utilise. D'accord ? Donc c'est une salle donc, sans écho. Donc effectivement, il y a un silence très très particulier. Vous allez écouter d'ailleurs ce silence-là en rentrant. Ok ?
Est-ce qu'on s'entend dans la salle ?
Justement. Donc on va rentrer dans cette salle. On va rentrer en silence. Qu'est-ce qu'on entend là ?
On entend les résonnements du silence.
Imaginons on était tout seul, c'est comme si on était perdu dans une forêt, mais sans bruit.
J'entends comme si l'air passait à travers mes oreilles, ça passe et ça ressort. Que, en fait, il y a un petit... Comme si quelque chose rentrait et ressortait.
Là, j'ai l'impression que donc, mon estomac, il pèse plus lourd. Et j'arrive pas à bien respirer. Je comprends pas trop pourquoi. Alors que pourtant, je sais pas.
Là, ça fait peur. C'est rigolo et peur. Je sens mon cœur battre. Ça fait peur parce que quand on l'entend, on croirait qu'il est à côté de nous et qu'il bat. Sauf qu'il est dans, en nous et qu'il bat. Du coup, c'est un peu bizarre. Du coup,
on a l'impression que toute la vie s'arrête. Et du coup, moi, ça me donne un peu envie de vomir.
Allez, on va sortir.
Oh, la taille du mur.
La taille du mur.
Ça fait juste bien. Ça fait un peu mal aux oreilles.
Ça fait un petit peu mal aux oreilles, mais pas énormément.
On entend qu'on avait les oreilles bouchées, mais qu'elles se sont débouchées.
Ça me détend. Parce que j'ai deux petites sœurs qui font tout le temps du bruit, même le soir. Alors rien entendre, c'est très, très détendant.
Je m'appelle Martin et je travaille dans le web, dans cette industrie-là. Et à 40 ans, entre deux jobs, pris dans une vie trépidante où j'étais en communication, en lien avec plein de gens en permanence, tout à coup j'ai éprouvé le besoin d'interrompre ce rythme et de faire une retraite de silence. Parce que j'ai l'impression qu'il faut que je me retrouve. On était en plein hiver et j'ai choisi un lieu dans le sud, dans une abbaye cistercienne que je ne connaissais pas, l'abbaye de Saint-Honorat, sur l'île de Saint-Honorat, juste en face de Cannes. En février, j'ai dû démissionner en janvier, quelque chose comme ça, et je suis parti, j'ai une famille, j'ai expliqué à tout le monde que on avait pu me voir et ni m'entendre pendant une semaine, donc... Arrive le jour J, et donc je monte dans une toute petite navette, celle qui relie Cannes aux îles, et je débarque sur l'île. Là, on est peut-être deux à descendre, et je suis accueilli par la seule personne avec laquelle je vais avoir une interaction orale, enfin une discussion de la semaine. Donc le moine hôtelier qui est, lui est autorisé. Les autres sont des moines qui sont fait vœu de silence. Lui est autorisé à parler, c'est sa fonction. Et je commence à lui dire, oui, alors voilà, j'ai quitté mon job, je suis en pleine recherche de moi-même, je trouve que c'est important. Mais en fait, il n'en a rien à fiche. Lui, c'est pas son problème. Il me décrit le truc, il me décrit les conditions matérielles, et puis ensuite, il m'amène à la cellule. Il veut même pas savoir si je suis croyant. Donc ça me fait un peu un choc, parce que voilà... Je tendais la main pour avoir un échange. Et puis, boum, il m'installe dans ma cellule. Et ciao, bye bye. Et il repart. Et je me retrouve dans ma cellule. Donc, cellule, c'est quoi? C'est une pièce minuscule. Un lit sur la droite. Un lit en métal avec un matelas. Une toute petite armoire en bois au fond. Une table avec une chaise. Et je crois que c'est tout. Voilà. Et donc, je commence... Au début, c'est la première après-midi, je suis là. Alors là, c'est douloureux, c'est triste. C'est-à-dire que arrive quand même le pourquoi je suis venu là. Et le pourquoi je suis venu là, c'est il y a quand même quelque chose de l'ordre de les cicatrices mal refermées. J'ai perdu ma mère quand j'étais enfant. Et en fait, tout à coup, alors que j'y pense pas tous les jours, que j'ai fait ma vie, que je suis pas non plus à me morfondre, tout à coup, ça me saute aux yeux quand même que ces actions-là, ces recherches-là, c'est pas juste le silence, c'est aussi ce manque, cette place vide qu'il y a dans mon âme et qui était là et qui, donc, j'avais affaire à ça à nouveau. Voilà. Donc, je me suis retrouvé avec ça. Très vite, ça m'a donné envie de quitter cette cellule et de pas rester là, parce qu'il y avait quelque chose de triste qui tout à coup s'installait, et je suis parti faire ma première promenade. La première d'une centaine de promenades que j'allais faire pendant 6 jours. Et puis arrive le moment du repas. Alors, tous les repas allaient être pareils, mais là aussi, c'est un moment très frappant. Le premier repas, et encore une fois, tous les autres allaient être comme ça, mais c'est un moment où moi, je suis quelqu'un de sociable, de volubile, et j'arrive et je vois une dizaine de personnes que j'avais pas vues de l'après-midi, j'avais vu personne, et tout à coup, je les vois avec des anoraks, des trucs, et j'ai envie de dire bonjour. Non. Petit sourire, mais pas bonjour, pas comment ça va. Donc on se parle pas, donc là c'est un silence qui m'a fallu quelques jours à appréhender, et puis peu à peu je me suis installé dans l'acceptation et le plaisir de ce silence partagé, d'être plusieurs, juste le bruit des assiettes, des cuillères, et voilà. Et de... Même quand on se demande le sel, on fait un geste et on dit pas passe-moi le sel. Le repas se passe, après c'est la nuit, hein, et la nuit tombe à 7h, on va se coucher, il est 8h, on va se coucher. Les 2 premiers jours, j'ai eu l'impression que j'étais dans la suractivité. Le 3e et le 4e jour, quelque chose commence à s'apaiser. Donc le bruit de toutes ces voix qui me sollicitent tout le temps, de ma voix intérieure à moi qui est tout le temps en train d'analyser les choses, un coup je pensais à mon couple, un coup je pensais à mes enfants, un coup je pensais à mon boulot, un coup je pensais à ma carrière, un coup je pensais à mes lectures. Et cacophonie commence à se réduire et commence à se taire. Et là arrive quelque chose d'autre progressivement. C'est toujours la même personne, c'est toujours moi, c'est toujours mes promenades sur l'île, c'est toujours ma participation au déjeuner et ma participation aux prières. Mais la paix, une paix intérieure commence à arriver. C'est-à-dire que il y a moins de bruit, donc mon esprit est moins soumis à des bruits extérieurs. Peut-être à nouveau la pensée de ma mère, mais la pensée de ma mère apaisée, comme une réconciliation en fait. Alors je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose, je me souviens exactement où en fait... L'avant-dernier virage avant de revenir à l'abbaye, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais en train de marcher et j'avais une manière de marcher dans l'île qui était un peu différente. Je me suis un peu redressé, les pas étaient peut-être un peu plus grands. Enfin, il y avait quelque chose. Voilà, c'était pas spectaculaire, c'était pas Hulk, mais tout à coup, une espèce d'euphorie physique, mais presque comme si l'équipe de France venait de marquer un but, quoi. Genre un espèce de ouais. Enfin, quelque chose de voilà, j'ai serré le poing comme si personne ne le savait, mais moi je savais que je venais de gagner. Un moment de sérénité absolue, quoi. Donc c'était l'immense satisfaction d'être qui j'étais, l'immense satisfaction d'avoir cette vie-là. L'immense satisfaction d'être né. Tout était OK. Tout était OK en moi. Pas d'ombre. C'était la victoire, quoi. C'était la victoire. La victoire sur moi-même, la victoire, je sais pas. C'était la victoire. Et tout ça dans le silence, avec personne autour de moi. Tout était tout était pareil et rien n'était pareil.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day. Ooh, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. And I'm feeling good. Dragon. Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in the peace when day is done, that's what I mean.
C'était Le Silence, un reportage d'Élise Andrieux réalisé par Yael Mandelbaum avec un coup de main de Jean-Christophe Francis et diffusé pour la première fois en octobre 2019. Merci à Tony, à Martin, aux enfants des écoles Parmentier, à Lacordaire, à Victor Cousin de Paris et à leurs professeurs, à Jean-Loïc Lecarrou et à la Sorbonne Université ainsi qu'à Claire de Toisy-Méchin. Merci aussi à l'association Ouvrir la Voie, Valérie Marchal et à Christophe Vergès. C'est Céline Paris, la tape pour des pieds sur terre, et c'est Rita Ruggirello, notre stagiaire.